Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 836 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes aussi en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. On peut s'écouter donc à Perpignan, Sud Radio, sur 103.2. Et vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu du samedi qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le domaine de la Perdrix, les régions des vins suisses, Nicolas Dubois, le président du Champagne Jipper et puis le millésime 2016 à Châteauneuf-du-Pape. À mes côtés, Hélène Piau, David Cobol et Bertrand Rouget. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, une vidéo Sud Radio retrouve justement Bertrand Rouget pour le Vino Quiz. D'abord la réponse, puis après la question de la semaine.
Eh bien voilà, alors la semaine dernière, la question était « Qui est le grand directeur de la School of Wine and Spirit Business of Bourgogne ?» Enfin, de Burgundy. Il y avait trois choix, soit Jérôme Gallo, soit Pierre Gallet, soit William de Gaal. Et évidemment, la bonne réponse était la réponse A, Jérôme Gallo.
Super. Et cette semaine, Bertrand ?
Cette semaine, voici la question. Quelle est l'origine du nom de la maison de champagne Jipper ? Ce nom fait-il référence au nom de la famille propriétaire du domaine, à une Jeep offerte par d'anciens GI américains au domaine après la Seconde Guerre mondiale, ou au Jeeper à bec doré, un oiseau typique de la région qui raffole des grappes de Chardonnay. Pour répondre et gagner l'abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses.
Merci beaucoup Bertrand. Invino sur Radio accueille maintenant le vigneron coup de cœur de ce samedi, André Gilles, copropriétaire du domaine de la Perdrix. Bonjour André.
Eh bien, bonjour à tous.
Alors dites-nous, là, votre vignoble, il est situé à 15 km, alors presque du centre du monde, mais au moins de la capitale européenne du vin cette année.
Eh oui, ben c'est la bonne surprise sur Perpignan, pas mal d'animation et une reconnaissance, ça nous fait toujours plaisir, quoi.
Alors racontez-nous, donc c'est une affaire familiale, tout débute en 1820, David Cobold n'était pas encore né.
Ben oui, moi non plus. Oui, effectivement, donc nous étions propriétaires dans la commune de Trouillas, au sud de Perpignan. Une très longue histoire viticole, avec au début, on faisait les vins du midi, on approvisionnait les chantiers, les mineurs. Ensuite, il y a eu l'histoire des vins doux naturels avec la maison Bire. Puis les cartes coopératives dans les années 30. On a arrêté de vinifier. Et j'ai repris l'entreprise en 97 quand ma mère est partie à la retraite. Et j'ai rénové une vieille cave pour la vieille cave de famille. Mais avec la croissance et le développement de la logistique, on a dû sortir du village et construire un domaine tout neuf il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, quoi. Voilà. Combien d'hectares aujourd'hui, André, au total ?
Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 50 hectares de terre, alors avec une production de céréales et de semences.
Oui.
Et notre activité principale, c'est 30 hectares de vignes en vignerons indépendants.
Qu'est-ce qu'on a comme cépage chez vous au niveau des blancs ? En fait, les trois couleurs, je suppose.
Alors, on a trois couleurs, mais alors il y en a beaucoup des cépages, hein. Je vous le dis tous.
Allez-y, vous avez 5 heures.
Ok, c'est parti. Eh bien, écoutez, alors, grenache blanc, grenache gris, grenache noir, Mourvèdre, Syrah, Saint-Saulx, Carignan, Muscat d'Alexandrie, Muscat Petit Grain, Macabeu, Roussanne. Ensuite, nous avons aussi du Marcellan et du Verdeillot.
C'est tout. Alors, dites-nous, vous avez également donc une activité vachement sympa. Il y a des concerts chez vous?
Alors effectivement, nous avons une affinité depuis toujours, hein, avec les musiciens qui font de la musique en live. Et donc chez nous, il y a très souvent des dégustations qui se finissent par des concerts live. Voilà.
Il y en a pendant cette période estivale, en juin, en juillet, en août.
Alors l'été, c'est le jeudi. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle depuis une dizaine d'années.
Ah, c'est tous les jeudis.
Les jeudis de la Perdrix. Donc c'est une soirée où on vient faire une dégustation en plein air, suivi d'un long pique-nique où on a fabriquer des barbecues un peu spectaculaires où les gens font alors pique-nique et de 9h à 11h un concert live sur différents styles de musique.
David, Cobold.
Alors, une question sur une catégorie de vins qui est trop souvent ignorée en France et que moi j'adore personnellement, les vins doux naturels, vous en produisez toujours ?
Alors, c'est une petite production qui se maintient très bien, d'abord par affinité, parce que étant le berceau des vins doux naturels depuis le Moyen-Âge, on a un amour génétique, comme on disait tout à l'heure, de ces vins. Et puis, c'est vrai que quand ils sont élaborés, avec quand même de la finesse et de longs élevages, on a des produits exceptionnels. Donc, ça se vend toujours très bien, sur des petites quantités, mais ça se maintient.
Dans
tous les pays, on en vend.
Tant mieux, tant mieux. Parce que vraiment, je trouve que ces vins méritent qu'on les découvre de plus en plus.
Et ils sont pas chers en plus.
Extraordinaire rapport qualité-prix.
Sauf nous qui faisons un produit très cher parce qu'on les.
Ah, vous faites du cher, vous. Combien ça vaut votre bouteille?
Non, ça va. Non, mais ça va de 10 euros à 70 euros.
Bon, 70 euros, c'est pas cher pour les gilets jaunes. Voilà. Alors, dites-nous, là, pour la vente de vos bouteilles, comment vous faites?
Alors, on a la façon la plus classique d'abord, c'est qu'on a un caveau de dégustation. Parce que en région touristique, quand même, on reçoit beaucoup de monde, donc ça, c'est la plus classique. Après, comme beaucoup de vignerons, quand on a repris l'exploitation, on a pris notre camion et on est parti faire des salons en Belgique. Donc, tous les vendredis soirs, vous avez 500 camions qui passent la frontière, c'est des vignerons français qui viennent en foire. Et puis après, avec l'augmentation de la qualité, de la notoriété et tout ça, on a fait des salons professionnels. Et
on a commencé à mettre en place
des importateurs un peu partout.
Avant de parler de vos vins, avec la dégustation de votre vin, vous bouchez vos bouteilles avec quel type de bouchage?
Alors, il y a plusieurs types de bouchage. Et on s'est inspiré de la tradition locale parce que le Roussillon a toujours été une région où on fait des bouchons. On a suivi de très longtemps l'histoire de la famille qui a fait la Diam et puis il y a eu d'autres noms avant. Donc on utilise Diam et aussi des bouchonniers, on a des lieux naturels, toujours locaux. Quoi.
Vous avez un site internet peut-être pour prendre enseignement, pour venir vous voir ou venir le jeudi, tous les jeudis, vous faire la fête chez vous?
Oui, c'est domaine-de-la-perderie.com.
Bon, alors, on déguste vos vins. Attention, parce que c'est Hélène Pieux qui l'a dégusté. Alors, il est comment ce domaine de la perderie AOP Côte du Roussillon, millésime 2017? D'abord, il est blanc ou il est rouge?
Alors, moi, ce que j'ai goûté, c'était en blanc.
Bon.
J'ai goûté la cuvée Joseph-Sébastien Ponce. Alors, il faut peut-être quand même préciser, parce que vous savez bien sûr qui était Joseph-Sébastien.
Ils sont Ponce, il n'y a que des Ponce dans la région.
Si on n'est pas martyr, on est Ponce.
Joseph-Sébastien Ponce.
Alors, c'était un très grand poète, catalan, bien sûr. Enfin, vous devriez savoir ça, Alain.
Mais qui se je ne sais pas.
Ami du sculpteur Mayol, enfin, voilà, quelqu'un qui a vraiment marqué la région. D'ailleurs, il a donc une cuvée à son nom, Joseph Sébastien Ponce, au domaine de la Perdrix. Le domaine de la Perdrix, de manière générale, vous aimez bien les noms un peu rigolos. Hein. Moi, il y a une cuvée que j'adore qui s'appelle Pour ceux qui rêvent le jour. Et alors, franchement, c'est
l'un des plus jolis noms de cuvée que j'ai jamais entendu.
Oui, Joseph Sébastien Ponce, en blanc, en Côte du Roussillon, et en 2017. Eh bien, écoutez, jaune pâle, un nez très doux, poire, pêche, amande, la bouche un peu sur les mêmes notes, une légère amertume. Moi, j'aime beaucoup toujours dans les vins blancs. Ça donne de la finesse, de la fraîcheur, de la longueur. Je me suis régalée avec un poulet rôti avec les petits légumes du Roussillon. En tout cas, ils auraient pu venir du Roussillon en ratatouille. J'ai continué sur la région avec un petit assortiment de fromage de brebis, des frais, des secs.
Bah oui.
Et puis,
c'est le paradis.
Et j'ai fini sur des petits sablés aux amandes.
Combien ça vaut la bouteille, ce coup de cœur?
14 euros.
Ah, c'est pas cher. Bravo.
Alors, du goûter, vous trempez des petits sablés dedans, c'est hyper bon.
Bravo André, bravo Hélène, merci beaucoup. Une vidéo sur radio. Retrouve d'être commode. Qui retourne en Suisse. Ça fait quand même 3 fois, David.
Oui, mais bon, ça va être la dernière. C'est
quand
un petit pays, mais je l'ai exploité maximum. J'étais 5 jours et j'ai failli être coincé à moto à 1800 mètres avec de la neige.
Et avec rien à boire en plus.
Eh bien, c'est parce qu'il y a de la neige en Suisse, on le sait. Hein. Mais il y a aussi de la vigne. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé un tout petit peu de la production globale, de l'organisation de cette production par les cantons, etc. Et ensuite, des différents cépages. Maintenant, on va parler un tout petit peu des styles. Et quand on parle des styles, on ne peut pas faire l'abstraction du climat local qui devrait s'appeler, non pas le microclimat, comme trop souvent on le dit en France, mais le mésoclimat. Le microclimat, c'est entre deux rangées de vignes. Donc, le climat, le mésoclimat est très, très variable en Suisse, globalement fraîche, sauf pour la partie italienne qui descend vers le lac Maggiore, qui n'est pas exactement méditerranéenne, mais enfin, ça s'en rapproche. Hein. Là, c'est la seule partie qui n'est pas montagneuse ou qui n'est pas en vue de montagne. Ces climats, donc, très différents et associés à des cépages très différents que j'ai décrits la semaine dernière, on a quand même pas mal de variations. Il ne faut pas oublier que si on dit, par exemple, je prends un exemple un peu extrême, la Suisse, ok, c'est un pays à climat globalement fraîche, c'est pas un climat chaud. Mais ce n'est pas nécessairement un climat alpin, c'est-à-dire qu'il y a quelques vignes qui sont en hauteur, 1000 mètres, il y a quelques vignes à 1000 mètres, mais elles sont assez rares. Mais si vous remontez la vallée au-dessus du lac Léman, dans la partie haute de la vallée du Rhône, parce que c'est la très haute vallée du Rhône, vous avez des pentes tellement spectaculaires sur la face nord, qui font face donc au sud, que vous arrivez à faire mûrir le Syrah. Et j'ai goûté des Syrahs extraordinaires, en Suisse. Alors, comme je disais la semaine dernière, le cépage dominant, c'est le pinot noir. Et le style des pinots noirs est assez variable. Les meilleurs que j'ai goûtés venaient soit de la région de Neuchâtel, qui est une région qui, globalement, on appelle la région des trois lacs, parce qu'il y a deux lacs plus petits que le lac de Neuchâtel. Là, il y a des pinots noirs plutôt dans un style que je dirais alsacien, entre l'Alsace et la Bourgogne. Encore qu'il faut se méfier de ces généralisations aujourd'hui, puisque les rouges d'Alsace issus de cépages pinot noir sont de plus en plus proches des grandes Bourgognes rouges, hein, surtout chez les meilleurs viticulteurs. J'ai goûté aussi de magnifiques pinots noirs de la région de Zurich. Là, on est de nouveau autour d'un lac, parce qu'il y a un lac Zurich, il y a également le lac Constance, il y a le lac Maggiore dans le sud, mais qui est en Italie avec une frontière avec la Suisse. Vous avez le lac de Lugano et vous avez bien sûr le lac Léman.
Bien sûr.
Tout ça, ça apporte une influence très importante au mésoclimat, à la fois par la masse d'eau qui va tempérer la froideur de l'hiver et qui va aussi tempérer la chaleur estivale et qui apportera aussi des brises. Et c'est très important, ces brises, pour contrôler, par exemple, de l'humidité après la pluie. Donc, ces zones locales, ces mésoclimats, sont hyper importants pour comprendre les vins suisses. Ce qui est plus complexe, c'est que beaucoup de vignerons, la plupart, sauf dans les régions de Lavaux, où on produit quasiment exclusivement le Chasselas, mais ailleurs, on produit beaucoup de cépages sur les mêmes parcelles, enfin sur les parcelles contiguës. J'ai goûté, par exemple, sur des parcelles contiguës dans le début du Valais, un très joli Sauvignon et un très beau Pinot Noir, et aussi un Chasselas, et ça vient de trois parcelles qui se touchent presque.
Et pour terminer, David, on peut les trouver un peu en France quand même, c'est tout.
Alors, comme je le disais dans mon premier sujet, oui. Non, il y a 1,4% de vins suisses seulement qui sont exportés.
Il faut aller là-bas et avoir la chance de les goûter.
Il faut aller là-bas, mais c'est pas loin. Il y a des TGV qui vont à Lausanne et vous débarquez et vous avez beaucoup de
choix de vins. Vous n'avez pas trop parlé du prix. Est-ce que les vins suisses en général sont chers?
Alors, elles sont relativement chères parce que quel est le pouvoir d'achat en Suisse étant ce qu'il est, c'est-à-dire élevé. Le coût de la vie également. Les vins suisses ne sont pas bon marché. Donc, si vous en faites l'équivalent, c'est difficile de trouver un bon vin suisse en dessous de 10 euros.
Merci beaucoup, David Kebol. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine. Nous recevrons Nicolas Dubois, le président du Champagne Jipper.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec un nouvel invité, Nicolas Dubois. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors vous êtes le président de la maison de champagne Jipper. Vous avez toujours travaillé toute votre vie dans les vins et spiritueux ou pas? Vous avez fait autre chose?
Alors j'ai fait autre chose, oui, en effet. J'ai vendu les éclairages de Noël dans mes 6 premiers mois de ma vie professionnelle.
D'accord. Et en champagne toujours?
Et en champagne toujours. Et après j'ai rencontré mon épouse où là on a monté une entreprise de négoce de vin.
D'accord.
En vin de champagne. Et aujourd'hui, qui est développé et qui occupe 80 personnes sur la planète.
Oui. Et alors aujourd'hui, donc, cette marque Jipper, est-ce qu'il y a une allusion directe ou indirecte au Jeep Willys?
Alors, c'est complètement lié à la Jeep Willys, puisque la famille Gutorb, avec qui on a repris la marque en 2009, le papa avait donc sauvé des GIs et les avait guidés pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu abîmés par nos compatriotes européens, maintenant allemands. Et les Américains, pour leur remercier du service rendu, lui ont donné le Jeep pour parcourir ses vignes, puisqu'ils ne pouvaient plus trop se déplacer physiquement d'une manière autonome.
Donc ça, c'est l'origine, alors?
C'est l'origine du nom, voilà. Donc, et Monsieur Gutorb, puisque la famille Gutorb, c'était un petit peu comme... c'est une famille très importante en termes de nom.
Oui.
Il s'est fait surnommer Monsieur Jeep, Monsieur Jipper, et lui a juste eu la bonne idée de déposer le nom suite à la guerre.
D'accord, parce que c'était pas déposé. Mais l'origine de la maison, donc, ça date de quand? C'était dans...
1949.
49, quoi, voilà. Juste après la guerre.
L'origine de l'histoire, c'est 45.
Et aujourd'hui, donc, Nicolas, vous dirigez une affaire familiale, s'il y a deux familles.
Donc, c'est deux familles. C'est la famille Dubois et la famille Rébier qui nous a rejoint en 2013 dans l'aventure pour assurer le développement
de la maison. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, vous travaillez sur 51 hectares en Champagne, c'est énorme, quoi.
C'est une belle exploitation, ça n'a rien d'énorme puisque le travail n'est pas fini, mais ça fait déjà une belle surface pour assurer une qualité, on va dire, très homogène de nos vins et complètement tracée et responsable par rapport à l'environnement.
Vous êtes basé où exactement? Parce que c'est grand, la Champagne.
Alors nous, on est à 15 km à l'ouest de Reims, dans un petit village qui s'appelle Favrol et Coëmy.
D'accord. Vous connaissez, hein, tout le monde connaît, là, je vois autour de la table, tout le monde connaît. Le style du champagne Jipper, comment on peut le décrire? Déjà, Jipper, ça s'écrit comment? J-E-E-P
E-R.
Voilà. Le style, la pâte maison, quelle influence vous le donnez?
Ce qu'on arrive à faire en 10 ans, c'est qu'on est devenu aussi le troisième parc de fûts de champagne. Donc on fait des vins quand même qui sont plutôt des vins à manger, plutôt des vins gastronomiques que des vins simples. C'est des vins
plutôt assez... Pinot noir alors peut-être?
Alors non, justement, nous on est à l'opposé, on est très chardonnay.
Et donc quand on dit des vins à manger, c'est quoi ça Nicolas?
C'est-à-dire que c'est des vins que vous pouvez prendre de l'apéritif du début jusqu'à la fin du repas. C'est-à-dire c'est des vins qui se complètent à tous les plats.
À tous les plats. Mmh. Et alors dans la gamme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va d'un brut sans année, je suppose.
Alors le dénominateur commun, c'est quand même la dominance du chardonnay dans tous les assemblages.
D'accord.
Et donc on a un brut sans année, on a un blanc de blanc, on a un rosé, on a un premier cru, on a un grand cru et on a une petite pépite qui est faite avec des raisins bio également.
Et alors comment s'appelle votre pépite?
Donc c'est la gamme, ce qu'on appelle la cuvée naturelle.
D'accord.
Qui n'est fait qu'avec des raisins bio qu'on achète chez les partenaires.
Ouais. Alors le développement durable, les enjeux là, vous y faites indirectement référence Nicolas Dubois avec cette cuvée particulière, mais pour vous c'est très important parce que parfois les champenois ont une mauvaise réputation. Mais c'est il y a longtemps ça, non?
Alors disons que nous on est un petit peu outsider, on est un petit peu un petit peu l'épine du système et on a pensé, et donc moi j'ai pensé traçabilité très tôt dans tous nos concepts de production. Et l'environnement a toujours été central. Central à un point qu'on a, donc on est certifié haute valeur environnementale et meilleur grade champenois noté depuis 3 ans.
D'accord.
Et c'est le vrai fil conducteur. C'est-à-dire, c'est la qualité de nos produits au service de nos clients et c'est notre seul fil conducteur. Le marketing est important, mais c'est surtout la qualité de nos produits et le plus respectueux possible au niveau environnemental.
Et au niveau
c'est-à-dire que nous, oui, on est dans l'amélioration environnementale et pas dans le respect de l'environnement. On essaye toujours d'amener quelque chose supplémentaire.
Et au niveau du prix final, on est de combien à combien?
On couvre un spec de 50 à 150 euros.
D'accord, très bien. Et alors au niveau de la distribution, vous vendez, alors c'est aussi une originalité, pour une maison de taille moyenne, vous le rappeliez, plus d'un million de bouteilles, mais pas tant que ça, 80% hors de nos frontières. C'est énorme, Nicolas Dubois.
C'était une volonté puisqu'on a racheté la maison. Donc j'ai racheté la maison en 2009, je l'ai repensé, si vous voulez, et par mes activités précédentes, il fallait obligatoirement qu'on parte vers l'export pour cette maison-là.
À l'époque, vous faisiez quoi? 7 millions de bouteilles dans l'autre?
C'était assez important.
Assez important, quoi. Et donc, l'international, quels sont les pays phares qui se délectent avec ce champagne Jipper?
On travaille très bien, mais naturellement, les États-Unis. Donc, on a un petit bureau là-bas avec 3 personnes. On travaille bien aussi la partie Asie du Sud-Est et Océanie.
Et en France, du côté de Toulouse, de Marseille, de Nice, de Paris, on peut vous trouver où?
Donc la France, ça faisait partie de la stratégie, mais de deuxième temps pour la marque, c'est-à-dire qu'on est revenu en France depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on retravaille le marché français, qui est un marché quand même hyper concurrentiel, où là, il faut, en termes de marketing, en termes de puissance, on se bat face à des très très importants.
Ouais. Alors j'ai aperçu sur une montgolfière du côté de Monaco, je me suis trompé ou pas?
Alors donc ça, on a fait un petit partenariat avec notre ami le prince, son excellence, puisque notre montgolfière est immatriculée à Monaco, et c'est une montgolfière qui est écologique, c'est-à-dire que contrairement aux autres ballons qui consomment énormément de gaz pour voler, on est monté dans ce projet-là grâce au prince, et on a un ballon qui consomme seulement 20% d'un ballon normal, ce qui nous permet de voler 10 heures. Et donc, on raconte également... C'est lié à notre philosophie de l'environnement et on fait voler nos clients, à la fois en France ou à l'étranger. Là, on va partir à La Réunion. Je pense qu'on va être les premiers à traverser l'île de La Réunion avec un ballon.
Ah oui.
Faut pas qu'on se loupe, sinon c'est...
Attention, si la hausse, ma foutre.
Voilà. Donc, voilà. Mais ça va dans la continuité, si vous voulez. Dans la continuité de notre philosophie. C'est tout ce qui touche à l'environnement.
Bon. Et pour terminer, si on passe du côté de la Champagne, vous avez une maison, un lieu pour nous accueillir ou pas, si on veut louer quelque chose?
Alors, on a une petite maison qui est... Honnêtement, qui est mon ancienne maison d'habitation, qu'on a transformée en maison d'hôte, donc où on peut recevoir les gens.
Vous êtes basé où là?
Alors, donc, nous, Favre-les-Coëmi, mais la maison à la ville d'Ange, premier village, mon village d'origine, où j'ai habité. Et donc, cette maison-là permet d'accueillir des clients et elle est remplie 90% du temps.
90%? Vous avez 4 chambres?
Il y en a 5.
Allez, on va jusqu'au bout, combien ça coûte pour un week-end?
Donc on n'accueille que des clients, donc on fait on les fait profiter.
Merci Nicolas Dubois. Une vidéo Sud Radio retrouve Bertrand Rouget, rédacteur en chef du magazine du vin, pour nous présenter le millésime 2016 à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce qu'il est bon, Bertrand, ce 2016?
Oui, il est extraordinaire. Je suis tombé amoureux. J'hésite d'ailleurs à demander le divorce et puis me marier avec ce millésime.
Avec Hélène ? Ah ben avec ce millésime, pardon, j'ai peur.
Oui, avec Hélène aussi, mais ouais. Ça, c'est une autre histoire.
Ça s'appelle la polygamie, ça.
Non, oui. C'est « J'avais jamais vu ça ». Alors évidemment, le millésime 2016, il est en bouteille depuis quelques temps. Il est déjà bien vendu, beaucoup vendu. Mais j'ai eu l'occasion de le goûter récemment sur la route, en m'arrêtant sur la route de Montpellier. Et là, ça a été un vrai coup de foudre. J'ai goûté une centaine de cuvées différentes.
De combien de vignerons
D'une trentaine de vignerons, parce que là, oui, tout le monde fait deux ou trois cuvées, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. J'étais deux semaines auparavant à Bordeaux où, je vais le dire, c'est pas bien, mais c'est vrai, je m'étais beaucoup ennuyé. Et là, des tanins durs, enfin, voilà, les gens comprendront ce que je veux dire quand je dis que je m'étais beaucoup ennuyé à Bordeaux. Et là, c'était la fête à chaque verre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le millésime 2016, on va la faire courte, il y a eu tous les talents. Notamment, un talent extraordinaire, c'est de faire mûrir dans des conditions absolument idéales les mourvettes de l'appellation. L'appellation, alors, en Provence...
Il y a combien de cépages différents, là ? Parce 13. Qu'il y en a un paquet, là. Hein,
oui, alors là, si tu me fais le coup de me demander de les citer, ça ne va pas être possible. Mais il y en a 13. Il y a 13 cépages différents. Alors, essentiellement, les plus courants, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Marsanne et Clairette pour les cépages blancs. Mais il y a des mourvettes qui sont extraordinaires, mais c'est plutôt en Espagne ou plutôt dans le sud de la France où ils peuvent arriver à maturité dans de très bonnes conditions. Et là, ils étaient exceptionnels, il n'y a pas eu de coulure, même pas sur les grenaches.
Qu'est-ce que c'est que la coulure ?
Hein, ben, quand les vignes de grenache, ma foi, sont des vignes souvent assez fragiles, et quand les conditions, dès qu'il y a de la pluie au mauvais moment, ou dès qu'il y a des conditions un petit peu fraîches vers la fin de l'année, voilà, et ben on appelle ça de la coulure, et donc ben, on perd une partie.
Techniquement, c'est lorsque la fleur ne se fertilise pas.
Voilà.
Et du coup, on a des grappes avec des trous dedans.
Ah oui, c'est ça, et donc on perd des raisins, et donc on perd de la quantité de vin pour les vignerons, mais on perd aussi de la qualité, parce que moins il y a de raisins, moins on a le choix, surtout quand on fait plusieurs cuvées. Et là, il y a un certain nombre de domaines qui ont fait des choses absolument extraordinaires.
Alors lesquels ? Citons-les, des bons élèves.
Alors, il y a eu un excellent élève, et je finirai par lui, mais il y a eu trois élèves extraordinaires, et qui ne sont pas les plus connus, évidemment, le Clos des Pâques, Beaucastel, etc. Tous ces gens-là ont fait des choses extraordinaires, mais aux alentours de 20 euros, donc là c'est pas cher du tout, surtout pour un vin d'appellation Château du Pape. On a le domaine Ferrand, qui est un petit domaine, qui est un domaine qui est très très clairement agricole et presque fermier, mais avec des enfants et un papa qui sont pas œnologues, ils n'ont pas la palme, ils n'ont pas le titre, mais qui ont toujours fait très très soin à leur vin, qui font un tri de folie dans leur vigne, du coup des petits rendements, du coup qui sont pas très riches, du coup qui n'ont pas beaucoup de publicité, qui ont fait un vin, alors on va faire des comparatifs, hein, mais c'est à peu près l'équivalent du Clos des Papes.
D'accord.
En goût, en tenue, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire en 2012, quelque chose d'extraordinaire en 2010, et là, ça dépasse encore tout ce qu'ils ont pu faire. C'est un vin absolument magnifique.
Là, Bertrand, on ne parle que des rouges ?
Là, que des rouges, ce domaine-là n'a que des rouges. En blanc, eh bien, vous avez le très très bon élève qui a fait trois cuvées fabuleuses, qui est le Clos Saint-Jean, qui est extraordinairement connu pour ses rouges, puisque le Clos Saint-Jean est le quatrième domaine français qui a le plus de 100 sur 100 par cœur, et qui va encore en obtenir trois, sans doute en 2016, mais il est inconnu pour son blanc. Et ça faisait des années que, sous l'égide de Philippe Camby, le blanc s'améliorait, et en 2016, c'est pas un échelon qui a été passé, ces deux échelons, on a une netteté, une précision qui rappelle très clairement Beaucastel. Et au niveau des prix, ben autant leur rouge coûte un peu cher, autant le blanc est à 25 euros la bouteille.
Ce qui est raisonnable pour un grand vin.
Voilà, ce qui pour un grand vin est tout à fait raisonnable, surtout que celui-là aura une très 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 belle garde. Et si on veut parler blanc et rouge, eh ben on a en 2016, mais aussi en 2017, parce que tous ces vignerons ont fait de très grands vins également en 2017. Et en 2017, ça coûtera peut-être un petit peu moins cher quand la qualité est à peu près équivalente. On a le Vieux Donjon. Le Vieux Donjon, toujours dans la même gamme de prix, 25 euros. C'est un rouge extraordinaire puissant, peut-être un peu trop, mais il suffit de l'attendre si on cherche un peu moins la puissance. Mais c'est surtout le blanc qui est plus confidentiel, c'est 10 fois moins de col, hein, évidemment, mais aussi...
Un col, c'est une bouteille, je suppose, c'est pas un col de chemise, quoi.
Non. Bon. le vin était extraordinaire. extraordinaire. Mais mon coup de cœur absolu, je reviens au Clos Saint-Jean, c'est en rouge. Les trois cuvées, le Châteauneuf classique, la Combe des Fous et Deus Ex Machina.
18 sur 20, 19 sur 20 ?
20 sur 20.
Ah, 20 sur 20 ?
Oui, 20 sur 20. Je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Ce sera, je crois qu'il y a 4 critiques internationaux qui notent sur 100, qui ont donné à certaines de ces cuvées 100 cette année. Enfin, il y a un espèce de consensus autour du domaine qui,
sur
les rouges, voilà.
Bon, super, merci beaucoup. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous donc sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. Donc merci à Nicolas Dubois, Hélène Pio, David Cobold et également à vous Bertrand Roger. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera de plein de choses. On parlera des arnaques dans le vin, du château Puech-Haut dans le Languedoc et le livre dont tout le monde parle, qui s'arrache, c'est incroyable, Tout le monde sait déguster le goût du vin et ses secrets. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.